L'Opus Festival de Colmar depuis l'hôtel Le Maréchal, 29e édition du 5 au 14 juillet. Hommage au chef d'orchestre Michel Plesson. Eh bien, c'est sur Accent 4, maintenant.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.
Bonjour à toutes et à tous et merci de recevoir chez vous ce nouveau numéro de l'Opus Festival de Colmar. Aujourd'hui, Olivier et moi-même recevrons la violoniste Fanny Clamagirand, le pianiste Alexandre Kantorov et Claude Jeannot, directeur des agences du CICS de Colmar et soutien fidèle du Festival de musique de Colmar. Ce midi, vous étiez, Fanny et Alexandre, au concert au Koifus et vous avez joué des œuvres de Saint-Saëns, Debussy et Richard Strauss. Saint-Saëns sera de nouveau au programme du concert de 21h en l'église Saint-Mathieu. Vladimir Spivakov dirigera deux Ave Maria et le Requiem de Saint-Saëns, puis en deuxième partie le Stabat Mater et chant de l'Ascension du métropolite Hilarion. Page que les auditeurs d'Accent 4 ont pu découvrir hier soir. Le festival rend hommage à Michel Plesson. Je vous propose que nous l'écoutions interpréter Eric Satie.
La grande ritournelle extraite de la belle excentrique d'Éric Satie, l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la baguette de Michel Plesson. Bonjour Fanny, bonjour Alexandre, bonjour Claude.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'avoir accepté cette invitation d'Accent 4 à participer à cette émission. Fanny, vous êtes une habituée, c'est la troisième fois que vous participez à ces émissions. Vous venez assez régulièrement au Festival de musique de Colmar, où vous êtes invité par Vladimir Spivakov. Et vous Alexandre, bien c'est votre première fois.
Oui, totalement. C'est même la première fois que je viens à Colmar. Et donc voilà, moi j'ai à la base, en fait, j'étais programmé comme juste en récital piano sol et puis ensuite on avait déjà joué l'année dernière ensemble avec Fanny, on s'est dit c'était une bonne occasion de revenir jouer ensemble. Donc, voilà.
On parlera peut-être un peu du programme que vous avez donné tout à l'heure, puisque vous avez joué de la musique française, Debussy. Vous avez joué aussi Richard Strauss. Et il me manque le premier compositeur. Saint-Saëns, bien sûr, puisque le nom de Saint-Saëns est attaché à celui de Fanny. Vous explorez avec beaucoup de talent, non seulement les concertos, mais aussi les sonates que vous avez enregistrées, non pas avec Alexandre, mais avec Vania Cohen. Et vous, Claude, bien, vous êtes un amateur de musique, qu'elle soit classique ou pas, et vous serez donc présent ce soir au concert de 21h. Il est important pour un établissement comme le CIC d'aider les jeunes talents et d'aider les festivals comme Colmar, mais il y en a d'autres bien évidemment.
Bien sûr, je pense qu'il est important de ne pas rester sur simplement du développement qui est du développement économique, mais aussi être dans le cadre du développement un acteur aussi en ce qui concerne l'art. Et le CIC est particulièrement intéressé pour permettre de soutenir à la fois les jeunes talents, parce que le CIC est partie prenante des victoires de la musique classique. Et donc, on a ici deux jeunes représentants et deux jeunes talents. Donc, je pense que c'est une véritable implication de la banque aussi, de pouvoir les soutenir dans le cadre de leurs études et ensuite de les révéler.
Est-ce que vous avez été soutenu par un établissement financier, ce qui arrive par exemple Ophélie Gaillard et aidé par le CICS, par le prêt d'un instrument?
Moi, j'ai été soutenue par la Fondation Banque Populaire, Natixis. Et donc, c'était une bourse pendant 3 ans pour des masterclass, pour voilà, justement faire le lien entre la fin des études et le début de la vie professionnelle active, enfin, et puis autonome. Et sinon, oui, enfin, j'ai un instrument qui m'est prêté, mais pas par l'intermédiaire d'une banque.
D'accord.
Et pour moi, oui, j'ai eu un soutien à un moment de la Fondation Safran, qui en fait
moi aussi,
je pense là, beaucoup d'étudiants au conservatoire ont la chance de pouvoir être soutenus en général en fin d'études, et parce qu'en fait on a juste à présenter un dossier, un projet, et voilà, si ça capte, on va dire, l'intérêt de la fondation, ils sont tout à fait prêts et disponibles à nous aider.
Mais c'est vrai qu'en France il y a assez peu de fondations, on est assez peu aidé par rapport à d'autres pays, parce que bon, l'éducation est gratuite à la base. Du coup, c'est pas un secteur qui est aussi riche qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre. Mais donc c'est pour ça qu'en fait on se retrouve, on fait vite tous le tour.
Bon, on reparlera un peu, sans doute un peu du mécénat dans quelques minutes, mais venons au sujet de cet hommage à Colmar du festival. Michel Plasson, il est né en 1933, il a 84 ans, il dirige encore. Qu'est-ce que représente une sommité de la musique française, puisque ça a été sa vocation, son désir ardent de défendre cette musique française pour des jeunes musiciens comme vous, Fanny.
Ben, c'est un grand homme. C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai commencé le violon à Toulouse. Et mes premiers concerts ont été à la Hologramme de Toulouse, donc c'était lui qui dirigeait. Donc j'ai des souvenirs précis et vagues en même temps parce que j'étais petite, mais c'est vrai qu'il a toujours été présent aussi dans les enregistrements à la maison, et c'est sûr que voilà, défendre la musique française et se dire qu'il y a une continuité c'est une inspiration aussi pour nous, c'est toujours des exemples incroyable, et voilà, puis la musique ça tient en vie, et ça, voilà, ça fait vivre aussi les autres, donc c'est pour nous une leçon incroyable.
Vous vous souvenez de l'œuvre que vous aviez jouée avec?
Non, malheureusement non, mais je crois que j'ai été, mes parents m'ont dit que j'ai été assez, je pense que je me souviens captée par cet orchestre, et que je me suis déplacée, rapprochée de la scène, parce que c'est sûr que c'est très frappant, très impressionnant pour un petit enfant.
Et c'est vrai qu'il a fait de cet orchestre du Capitole de Toulouse en 35 ans une formation de niveau international.
Tout à fait.
Alexandre, Michel Plasson.
Et moi, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais simplement, je trouve que ce qui est absolument incroyable, c'est de voir des gens aujourd'hui qui vivent et qui font de la musique et qui ont été en contact direct avec les compositeurs qu'on joue. Et donc voilà, on a en général simplement nos imaginations et les enregistrements et un peu simplement toutes nos découvertes musicales pour essayer de nous orienter dans nos interprétations. Et donc voilà, d'avoir la possibilité, par exemple, d'écouter quelqu'un qui a directement suivi les conseils du compositeur, je pense que c'est extrêmement, on va dire, important, et ça, on retient énormément de leçons simplement en les voyant faire leur musique.
Et puis vous avez regardé votre papa, parce que votre papa est violoniste, mais il est aussi chef d'orchestre. Et d'ailleurs, vous avez enregistré les concertos de Liszt avec lui.
C'est ça, oui. Alors c'est drôle, quand j'étais petit, j'écoutais souvent, en fait, papa jouait du violon, et travaillait son violon, il travaillait vraiment les mêmes œuvres. Et en fait, je ne savais absolument rien sur le violon. Je connaissais pas la moindre œuvre pour violon. Et plus tard, en fait, bien plus tard, à chaque fois que j'entendais des œuvres, je connaissais, en fait, je pouvais presque chanter tout le reste du mouvement dès que j'entendais les premières notes, parce que j'avais tellement l'habitude qu'il jouait. Donc oui, bien sûr, c'était un exemple formidable à la maison, et je pense que inconsciemment, j'en ai retiré beaucoup. Les disques qu'on a fait, c'était plus une manière de marquer le coup, fait qu'on est maintenant tous les deux toujours actifs encore, et donc voilà, c'était un très bon moment de complicité. Et puis surtout, c'est une superbe chose de pouvoir faire de la musique avec sa famille.
Mais pour autant, vous n'avez pas choisi le violon.
Ah, heureusement. Ça aurait été terrible. Non, j'en ai fait 3 jours. Les pires 3 jours de ma vie, je pense. Non, en fait, à la fin, je le tenais dans l'autre main et ça, c'était vraiment, je pense, pas fait pour moi. Puis il y a aussi, je pense, être fils de musicien, ça peut servir, bien entendu. Il y a beaucoup de qualités. En même temps, il y a aussi une grande assez difficulté à se faire reconnaître pour soi-même et pour ce qu'on est. Et donc, je pense qu'en plus, si j'avais fait le même instrument, ça aurait été bien plus dur aujourd'hui de faire carrière. Il n'y aurait eu que des comparaisons, en fait, uniquement avec la manière dont joue mon père et la manière dont je joue. Et puis, en même temps, à deux violons, on ne peut pas vraiment faire beaucoup, beaucoup de musique de chambre. Donc, c'est très bien qu'on ait fait des instruments différents.
Donc, vous jouez, vous faites des sonates avec votre papa?
Ah, bien sûr. Oui. Il est toujours en train d'alterner les périodes où il arrête, puis il reprend, il arrête, il reprend. Mais donc, je pense qu'il ne peut pas vraiment totalement se laisser résoudre à juste abandonner totalement le violon. Donc voilà, à la maison, souvent on déchiffre beaucoup de partitions parce qu'il y a une pile énorme de manuscrits de français, de musique française justement, et donc souvent on déchiffre un peu ensemble.
C'est passionnant que de les entendre, Claude.
C'est fantastique de voir effectivement deux artistes si jeunes qui sont autant passionnés, et puis on voit qu'il y a quand même un atavisme qui est fort, et les uns et les autres ont été baignés dedans quand ils étaient jeunes. Mais moi, je crois que vous avez peut-être peur que Fanny vous fasse de l'ombre en venant à Colmar, et donc c'est pour ça que vous n'avez pas osé toucher le piano, le violon, pardon.
C'était ma peur, ouais. Exactement. Ouais.
Non, mais il faut rajouter que moi j'ai été l'élève de Cantor, de ton père.
Ça rend le truc encore plus.
Donc c'est pour ça. Et puis je t'ai marrainé l'année dernière pour un concert à Paris. Et donc ouais. Du coup, c'est voilà, la boucle est bouclée. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympathique de pouvoir pouvoir faire ça.
Et il y a un certain nombre d'années, j'ai interviewé votre papa.
C'est vrai,
ça n'était pas à Colmar, c'était à Mirecourt.
Ah d'accord. Voilà. C'était pourquoi? C'était juste un concert là-bas.
Oui, il y avait un concert, et puis il y avait une radio. Voilà, et on m'a dit tu vas aller interviewer Jean-Jacques Kantorov. Voilà, donc je suis allé interviewer Jean-Jacques Kantorov, et j'en garde un merveilleux souvenir. On revient un petit peu à votre formation, Alexandre, parce que j'ai lu que vous aviez suivi les enseignements de Pierre-Alain Volonda. Pierre-Alain Volonda est un pianiste absolument génial, un caractère peut-être impossible, ce qui fait que il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il est aussi compositeur. Alors, lorsque vous bossiez des œuvres avec lui, est-ce qu'il vous demandait de les approcher en pensant non pas à l'interprète que vous êtes, mais au compositeur que vous pourriez être?
Alors, c'est possible, mais j'avoue que dans ces cours, je pense que ça ressemblait même pas à des cours, c'était très spécial. Bon, ça reste un pianiste absolument incroyable, et il avait des traits de génie, bon, juste tellement étonnant. Il avait aussi une manière assez très personnelle d'approcher l'instrument, mais par contre, voilà, dans ses cours, ça ressemblait presque à un one-man show. Il faisait des blagues tout le temps, il était...
On l'imagine pas blagueur.
Ah, mais alors, c'est très drôle parce que c'est l'extrême. En fait, il est jamais dans la demi-mesure. En fait, soit on le connaît comme sur scène, le gars extrêmement sérieux, qui a presque un peu froid vis-à-vis de son public. Et en fait, quand il est à l'aise, mais alors il se déchaîne, mais c'est absolument improbable. Et donc, c'est vrai que c'est court. Je pouvais pas vraiment les appeler les cours. En plus, j'étais assez jeune, donc je pense, j'en retiens peu vraiment. Mais je me souviens, à chaque fois, presque, il y avait. Sur les une heure de l'heure de cours et probablement une minute ou un conseil ou quelque chose juste qui disait comme ça et qui reste en fait tout simplement et qui marque vraiment et je pense un peu le seul qui peut juste comme ça au milieu de tant de non pédagogie entre guillemets à juste se marquer sur un point et ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur la technique, ça peut être sur juste une image ou une sorte de comparaison, une métaphore qui lui vient à l'esprit. Et c'est vraiment quelqu'un d'assez créatif et inventif. Donc voilà, je pense que j'ai inconsciemment encore une fois retenu beaucoup de lui.
Et l'autre pianiste, c'est Franck Bralet. Mmh. Alors lui est aussi chef d'orchestre maintenant, il est directeur musical de l'orchestre de chambre de Wallonie. Est-ce qu'il vous a demandé de penser la partition en format orchestre?
Toujours. Mais ça, c'est même pas... Il me le dit pas ouvertement de penser comme un chef d'orchestre, mais c'est un musicien qui, curieusement, est plus musicien que pianiste, je dirais. C'est disons qu'il fait un répertoire assez particulier, il se concentre vraiment sur le répertoire classique. Il a fait un moment en Gershwin, mais voilà, c'était le répertoire classique, entre guillemets, romantique. Celui, un peu les chevaux de bataille de tous les pianistes, il les a jamais joués. Donc c'est au contraire presque un intérêt d'avoir une approche totalement nouvelle, en fait, de quelqu'un qui ne connaît pas, on n'a jamais joué l'œuvre et qui ne tombe pas dans l'éthique de pianiste. Justement, il s'en fiche absolument de la technique, de la difficulté au piano. Il voit ça d'un point de vue simplement de auditeur ou de chef d'orchestre, à dire un rapport direct avec la partition. Et donc, justement, dans son enseignement, j'ai rarement entendu des conseils proprement technique, c'est vraiment plus une question d'imaginer les plans, d'imaginer surtout le phrasé, de penser comme si j'avais un archer. Voilà, ça tourne vraiment toujours autour d'un son d'orchestre.
Bien. Est-ce que vous imaginez un jour faire de la direction?
J'aimerais. Là, clairement, non.
Encore trop jeune.
Voilà, bien sûr.
On dit que vous venez à peine d'avoir 20 ans.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je me dis que c'est un énorme plaisir. Je pense que la plupart des musiciens qui deviennent ensuite chefs d'orchestre, c'est par envie d'aller encore plus loin, d'avoir un rapport direct avec tous les musiciens d'un coup. Et puis surtout, je pense que ça doit être assez grisant d'être simplement en face de tout un orchestre qui renvoie un son avec tous ces gens qui jouent en même temps pour vous. Mais bon, j'avoue que maintenant, non, absolument pas. Je pense que j'ai énormément de choses à faire encore avant de me tourner possible vers la direction.
Bon, eh bien, on en reparlera une autre fois.
Ah, peut-être. La prochaine fois, je vais dire l'inverse totalement.
Voilà, quand vous viendrez aussi à Colmar pour peut-être diriger l'Orchestre National Philharmonique de Russie ou un autre orchestre. Alors, on va vous écouter quand même maintenant. On va vous écouter dans un extrait de votre dernier disque, À la Russe. C'était une volonté délibérée d'enregistrer un programme russe, Tchaïkovski, Rachmaninov, Stravinsky.
Oui, clairement. Mon professeur avant, Franck Bralet, il s'appelait Igor Lasko. C'était un professeur russe à la Scola. Et, Scola, Cantorum de Paris. Et donc, il m'a vraiment, je pense, le premier, on va dire, créé un sorte de bagage solide. Où le premier, il m'a... on va dire, fait la transition entre simplement faire ça en amateur, en activité extrascolaire après les cours, à vraiment avoir une envie de faire du piano de mon métier, en fait. Et je lui dois énormément sur toute la base, en tout cas, de mon jeu. Et c'était, il y avait plusieurs pièces de ce disque, des pièces que j'ai déjà travaillé avec lui, donc il y avait quelque part une sorte de volonté de peut rendre hommage à tout ce qui m'a apporté, en fait. Et après, j'ai eu une grosse surprise en découvrant la première sonate de Rachmaninov. C'était par hasard sur YouTube en écoutant John Ogden, qui l'a joué. C'était extraordinaire. C'est une sonate qui a des dimensions gigantesques et qui, presque, on pourrait qualifier de trop même immature à certains moments, parce que c'est vrai qu'on a presque l'impression que Rachmaninov lui-même se perd dans sa composition, il s'arrête plus, il est débordé de passion, et je pense que c'était un peu un challenge de faire à la fois être assez rigoureux et stable pour faire, on va dire, comprendre vraiment la musique qu'on joue, mais en même temps de donner toute cette exubérance et cette passion qui l'animait, je pense, quand elle a composé ça.
Bon, on vous écoute dans la danse finale de l'Oiseau de Feu de Stravinsky.
Le final de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky dans une transcription pour piano de Guido Agosti. Alexandre Kantorov en était l'interprète et Alexandre est en compagnie de Fanny Clamagiran, l'invitée de cet Opus Festival. Et quand j'ai préparé cette interview, j'ai lu évidemment d'autres interviews dans la presse et j'ai toujours lu de très très grandes éloges à votre propos, que vous étiez l'étoile montante des violonistes français, la personne à suivre, et comment on reçoit ça sur ses épaules quand on est tout jeune interprète, tout jeune musicien, musicienne en l'occurrence.
Bah en fait, on essaye d'avoir une carapace pour ne pas être trop impressionné, influencé par ces choses-là. Je pense que moi, j'ai reçu une éducation musicale russe. Une prof russe qui m'a aussi tout appris, c'est à elle que je dois en fait mon parcours et où je suis, où j'en suis maintenant, Larissa Kolos. Et donc pendant 8 ans, elle avait un plan pour moi. Enfin voilà, elle s'était dit plus tard, tu feras du violon, ce sera ton métier. Et ben moi, j'étais petite. Bon, j'ai fait ce qu'on m'a dit et ça se passait très bien. Et j'aimais beaucoup ça, mais il n'y avait pas de. Si je faisais ça simplement, naturellement, et voilà. Puis les étapes ont été franchies petit à petit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a justement préparé le côté psychologique, enfin le côté mental, en fait, d'apprendre beaucoup de répertoire, d'être confronté à la scène assez jeune, aux concours internationaux, donc où il y a c'est la pression du moment, l'échéance, et voilà, se dépasser à des moments clés. Et puis au fur et à mesure, bon ben c'est ça, on apprend, on a de l'expérience, et puis on forge son caractère, et puis on sait que voilà, il y a après on devient au fur et à mesure, oui, on est jugé d'une certaine manière, donc c'est toujours assez difficile, mais c'est parce que voilà, on est nombreux, et puis que les gens sont intéressés, intrigués par ce qu'on peut faire, et ont aussi des références d'enregistrement, d'autres musiciens, d'autres interprètes, donc il y a forcément voilà, le besoin de comparer. Donc on essaye, en fait, moi je veux dire, bien sûr, je lis un peu la presse, on est toujours très content quand c'est positif, on l'est moins si ça l'est pas, mais en fait il faut essayer de rester, c'est ce que j'essaye de faire, le plus détaché, autant quand c'est positif et que quand c'est peut-être négatif, mais parce que justement il faut pas se laisser distraire. Voilà, essayer de d'avancer, de continuer son chemin en fonction des convictions profondes aussi qu'on a par rapport à la musique qu'on sert, au message qu'on veut aussi apporter et partager avec le public. Moi, j'essaye toujours de rester la plus sincère, en fait.
Votre professeur vous a donc préparé à tout cet aspect psychologique de votre métier aujourd'hui, mais vous avez aussi sans doute préparé à tout l'aspect interprétatif. Et vous en gardez toujours aujourd'hui, quand vous abordez une nouvelle œuvre, vous partez toujours du même point.
Oui, c'est vrai qu'il y a
une grille de lecture.
Il y a toujours forcément le même procédé, des habitudes qui se sont créées, mais ça, je pense que bien sûr, elle a eu un rôle prépondérant et ça reste. Voilà, ensuite, j'ai rencontré d'autres pédagogues, donc Jean-Jacques Antoroff, et qui m'a énormément marquée. Différemment, mais peut-être au niveau de l'interprétation, c'était quelque chose de encore plus nouveau, parce que en fait, j'ai appris à devenir complètement autonome dans mon travail et dans ma personnalité musicale. Quand on est plus petit, on est guidé presque pas à pas, et c'est fantastique, mais quand on est plus grand, on est tout seul. Donc, avec Jean-Jacques Antoroff, j'ai découvert cet autre univers d'une certaine manière, et du coup c'est aussi quelque chose, on apprend plus vite, donc les étapes sont le répertoire, on mûrit, on est plus grand, on devient adulte, donc tout devient plus aisé, plus facile d'une certaine manière, donc voilà, je pense qu'il a eu aussi un rôle majeur, certainement.
Vous avez dit tout à l'heure que vous venez de l'école russe plutôt, avec votre professeur.
Oui.
Et aujourd'hui, vous avez fait un concert de musique française.
Oui, presque, mais c'est-à-dire que je suis française, donc je pense que j'ai un instinct...
Ce répertoire de musique française vous touche de manière différente?
Je pense que c'est vrai que j'ai une prédilection pour la musique du début du XXe siècle, en particulier française, donc voilà, Saint-Saëns, Fauré, Chausson... Franck, Debussy, enfin tout ça, parce que il y a ces possibilités incroyables de sonorité, de couleur, une richesse infinie, et c'est des œuvres que j'ai pu jouer pas des milliers de fois, mais peut-être plusieurs dizaines de fois, et à chaque fois c'est nouveau, Il y a d'autres choses. Et puis bon, après, c'est vrai que le fait d'avoir des partenaires différents, on recrée quelque chose. Enfin, on a d'autres inspirations. Mais donc voilà, cette richesse, ça m'interpelle. Et puis, je pense que je me sens proche parce que je dois avoir un instinct un petit peu, voilà, français aussi. Et puis, c'est vrai qu'après, moi, j'aime énormément... Prokofiev ou Shostakovich, et ça c'est vraiment très russe, mais il y a aussi énormément de couleurs. Et en fait, l'école russe, enfin la sonorité, le son, c'est incroyable, l'école du violon russe.
Est-ce qu'on peut donner un son français, si on peut le définir, à ces œuvres de musique russe, ou tout à l'heure, vous avez, Jean a parlé de musique française, mais vous avez joué aussi la sonate de Richard Strauss.
Oui, ben je pense que oui, tout est possible, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a rien de... Il y a rien de calculé. Enfin, c'est pas pour faire un son plus ou moins français ou russe. C'est vraiment dans le ressenti, dans la logique. Mais on dira que peut-être, voilà, la sonate de Debussy, il y a plus d'air. C'est plus aérien. Mais ça peut tout à fait créer une couleur qui conviendra peut-être pas dans Strauss, mais dans Prokofiev. Fief ou dans Shostakovich, voilà, tant que c'est ressenti et que c'est construit et qu'il y a une certaine logique, voilà, c'est toutes les possibilités incroyables aussi de l'instrument, avec un archet, avec le vibrato, avec la sensibilité de la justesse, enfin, c'est infini, vraiment.
Et avec le piano. Alexandre.
Oui, mais c'est d'une autre manière, bien sûr, ça sera, on va dire, à l'écoute, probablement moins évident sur le court terme qu'un violoniste qui peut immédiatement changer et de manière très très perceptible son. On n'a pas cette possibilité de malaxer un son et de créer quelque chose. Nous, on est plus dans ce que je dirais de l'illusion. On est obligé de créer à partir d'un instrument de percussion l'impression de lier, de faire un vibrato, de faire ce qui est naturel, ce qui est plutôt de la voix ou du violoncelle. Bon, on s'inspire pas mal de ces différents instruments-là. Je dirais que oui, on a comme au violon des sortes de couleurs et des traits communs. Par exemple, dans la musique française, on peut souvent créer, par exemple, l'effet un peu la goutte d'eau qui tombe, c'est-à-dire avec des notes attaquées de manière assez percussive, mais en même temps très légère, avec la pédale. La pédale, alors, en même temps, elle sert énormément selon la manière dont on l'utilise. Est-ce qu'on peut créer par exemple un effet brumeux, une sorte de pédale un peu constante où on a l'impression d'être dans une atmosphère très humide, ou au contraire quelque chose de plutôt brutal? Donc on a quand même beaucoup de possibilités, et aussi on va dire que malgré tout, même le plus important, ça reste dans la manière dont on attaque directement la note. C'est ça qui va déterminer comment elle va partir, elle va résonner, elle va créer un peu, je pense, le cœur du son. Et après, on peut s'amuser à faire des sortes de, on va dire, variantes, ou grâce à le reste, grâce aux pédales, etc.
On va écouter Fanny, Jean, dans quelle œuvre ?
Dans Joyeuseté, extrait de Triptyque, opus 136 de Camille Saint-Saëns, Fanny Clamagiran au violon et Vania Cohen au piano, un disque Naxos. Thank you. Nous écoutions Fanny Clamagirand dans La Joyeuseté, extrait du triptyque opus 136 de Camille Saint-Saëns. Et elle était accompagnée de Vania Cohen au piano, un disque Naxos. J'avais une question avant. On entendait Alexandre Kantorov parler de son français dans la technique du violon, mais j'ai du violon, du piano. Et j'ai aussi pensé, il y a l'interprète, il y a aussi l'instrument. Il y a différentes factures. Le piano français, évidemment, est très connu pour avoir un son spécial. Est-ce qu'il y a aussi une facture française et un son français dans la facture de violon? Est-ce qu'on peut le dire ça, ou c'est vraiment le jeu du violoniste qui va faire le son français?
Je serais tentée de dire que c'est peut-être plus le jeu du violoniste. Je vous avouerai que, en fait, j'ai jamais joué de violon français. J'ai toujours joué des violons italiens. C'est vrai que c'est un petit peu c'est des excellents violons, et enfin si on parle des Stradivarius, des Guarnerius, il y en a bien sûr d'autres, mais je vais pas tous les énoncer. Je pense que c'est la différence viendra, bien sûr. Il y a bien sûr l'instrument fait beaucoup, mais l'archet, en fait, justement, la prise du son, c'est comme l'attaque au piano, c'est ça qui nous donne aussi beaucoup de possibilités différentes, et qui permettent d'avoir un son plus ou moins gras, riche ou flûté. Donc je dirais plutôt que c'est l'interprète, plutôt que l'instrument.
Très bien. Claude, le CICS parraine le concert de demain soir à 21h. Emmanuel Plasson, le fils de Michel, dirige des œuvres de Bernstein, de Poulenc, de Chabrier et de Bizet, avec deux solistes, Philippe Quint, le violoniste, et la pianiste Sofia Gubaldamova. Je l'ai pourtant bien dit ce matin, mais bon. Rôle essentiel du CICS, d'aider les festivals à perdurer. Mais le CICS aussi a lancé une collection qui est particulièrement passionnante, qui a été diffusée sur la 5. C'est une connaissance des compositeurs.
Oui, tout à fait. En fait, dans le cadre de son partenariat avec France 5, le CIC a lancé deux types de films qui sont des films très pédagogiques et qui permettent de faire accéder à la musique à des personnes qui sont moins connaisseurs ou moins pointues. Et pour ce faire, il a choisi de prendre une thématique qui est celle de mieux connaître les compositeurs. Et donc, parmi les différents sujets qui ont été abordés, il y a une thématique qui a été basée sur les pas d'eux. Donc, exemple, sur les pas de Beethoven. Donc, tout à l'heure, Alexandre nous disait qu'il utilisait YouTube pour permettre de faire quelques écoutes. Ben, je vous invite à taper sur les pas de Beethoven, par exemple, sur YouTube. Et vous verrez des séquences qui sont des séquences de 52 minutes et qui vont retracer l'histoire, tout ce qui concerne, en fait, un certain nombre de personnages, parce que ce n'est pas que des compositeurs, mais qui touchent à la musique et à la musique classique, bien évidemment, puisque nous, notre partenariat, c'est quand même les victoires de la musique classique, et c'est notre credo. On a également fait des promenades musicales dans des villes. Il y a 8 émissions qui ont été tournées, toujours sur un format d'une cinquantaine de minutes, et qui sont donc des visites musicales dans des villes, qui sont des villes qui sont hautes en couleurs, et où on retrouve des compositeurs et on trouve des artistes qui interprètent ces œuvres.
Vous aviez vu quelques-uns de ces numéros lorsque...
Peut-être, mais peut-être pas en entier, en fait. Je ne me souviens pas exactement.
En tout cas, c'est essentiel d'essayer d'apporter au plus grand nombre la musique classique. Oui. D'autant plus que je crois que ces émissions étaient diffusées à des heures...
Convenable,
tout à fait.
Oui, tout à fait. Bon, maintenant, tout le monde est en itinérance. Hein,
donc, oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, quand on n'est pas à la maison, on n'a pas forcément la possibilité de suivre tout ce qui est proposé à l'antenne, à la télévision. Mais non, mais ça, je vais aller regarder.
Voilà, Fanny me fait une promesse, c'est effectivement d'aller visiter lors de ses prochains déplacements pour être complètement investi dans.
C'est vrai qu'avec Internet, on peut quand
et
même
puis
faire beaucoup de choses.
Peut-être même participer à un numéro, ça serait bien, sur les pas de Saint-Saëns. Parce que là, il y a beaucoup à faire. On pourrait aller en Égypte, au Maroc, en Algérie, etc., etc. C'est une idée, ça.
Oui, alors on a fait des manifestations qui sont des manifestations où on a invité le public en région, à découvrir ce film. Et ensuite, on a couplé la venue d'artistes qui ont interprété un certain nombre de pièces, qui sont des pièces de cet artiste, pour permettre à notre clientèle de découvrir à la fois un contexte plus général, mais aussi découvrir les œuvres principales, jouées toujours par des jeunes talents, parce que je le rappelle, c'est ce que nous recherchons. C'est à l'occasion de 30 concerts à peu près dans l'année, à mettre en valeur ces jeunes talents, dont on a aujourd'hui deux exemples particulièrement sympa.
Et remarquable. Merci Claude, merci Fanny, merci Alexandre. Michel Plasson dit « J'aime les petites musiques comme Forêt, celles qui osent le demi-mot. J'aime les partitions qui n'ont pas de succès. » Eh bien, je vous propose que l'on se quitte avec la gavotte, extraite de Masque et Bergamasque, opus 112 de Gabriel Fauré. Musique absolument délicieuse. Et Michel Plasson est bien sûr toujours avec l'orchestre du Capitole de Toulouse.
Nous écoutions la gavotte extraite de Masque et Bergamasque, opus 112 de Gabriel Fauré. Michel Plasson dirigeait l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Et Fanny Clamant-Girand, quels seront vos prochains concerts? Nous aurons le plaisir de vous réécouter.
Alors je serai à la fin de la semaine prochaine, les 16 et 17 juillet, au Musical du Revermont, dans le Jura, pour des quintettes, quintettes de Mozart avec clarinette, quintette de Brahms avec clarinette et quintette de Brahms avec piano. Et avec beaucoup d'autres musiciens, dont Raphaël Sévère, Xavier Philips, Miguel da Silva, et j'en oublie, et voilà, mais vous les retrouverez sur la page des musicales. Et
je me souviens que vous aviez joué la concertante de Mozart avec Antoine Tamisti et l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Exactement.
Franz Weserhorst.
Oui, à Vienne. Enfin, non, on avait répété à Vienne, on avait joué au Festival de Lucerne et puis au Festival Enesco à Bucarest.
Prochain festival, 2011. Claude, prochain festival soutenu par le CIC Est, c'est le Festival de Besançon.
Oui.
En septembre.
En septembre, le Festival de Besançon, comme tous les ans, on est toujours fidèles à notre soutien dans le cadre des festivals en région.
Eh bien, merci à vous. L'Opus, c'est...
Et l'Opus est terminé. Merci à vous, Fanny Clamagirand et Alexandre Kantorov, d'être passés par ce micro d'Accent 4. Demain, Olivier recevra Emmanuel Plasson, Sofia Gulbadamova et Philippe Quint. Merci à Maxime d'avoir réalisé cette émission. Bon festival à toutes et à tous.
Et merci à Claude Janot.
Merci à vous.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.